I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundo et Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Difior, et prise de son assurée ce soir par Thibaut Nassimben, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Elisabeth Philippe, Raphaël Léris et Jean-Christophe Brianchon. À notre sommaire, Summer de Monica Sabolo, paru chez Lattès, Le petit garçon sur la plage de Pierre de Marty, paru chez Verdier, et La Serpe de Philippe Janeda, paru chez Julliard. Présent également à mes côtés, Boris Pinot, qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos avis et commentaires sur notre sommaire. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Nos années folles d'André Téchiné, qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont on parlera nous demain. Nous ouvrons cette dispute avec le cinquième livre de Monica Sabolo, une auteure, je l'avoue, que je n'avais encore jamais lu. Confession d'autant plus évidente à faire que mon bonheur n'en a été plus grand de la découvrir, de découvrir Summer, édité chez J.C. Lattès. Toujours le lac. L'été où c'est arrivé, cet été dont rien n'a marqué ma mémoire, ou juste quelques images, comme des photographies nettes et brillantes, pendant ce mois de juillet où nos vies ont changé pour toujours. Il faisait si chaud que les poissons remontaient des profondeurs du lac Léman. On se mettait sur la rive et l'on voyait ces masses sombres à la surface comme des monstres suffocants, et l'on pouvait imaginer l'intérieur de leur bouche, la chair rose, écœurante. Selon le docteur Traum, que je vois depuis 3 mois et 2 semaines au rythme de 2 séances hebdomadaires, 3 mois que je regarde son front humide, ses cheveux qui démarrent bien trop, il sera chauve dans quoi, 3-4 ans, ces poissons qui reviennent dans mes rêves sont peut-être une représentation de moi-même, mes sensations de suffocation, d'étouffement. 24 ans et 13 jours que c'est arrivé. 24 ans et 13 jours que je me souviens de rien, juste quelques flashs, une explosion de blanc et de lumière, et puis plus rien. Poissons, noir, visqueux, fougère, phosphorescente, aplatie, les cheveux des copines de ma sœur balayant des épaules nues au rythme de leurs mouvements de tête, cherchant Summer, criant son nom. Dans mes rêves, la surface luit comme un miroir coupant ou une dalle de verre. L'eau semble glacée et chaude à la fois. J'ai envie de plonger, d'aller voir, mais les poissons sont noirs, les plantes se déploient comme des tentacules, des filaments souples, luisants, qui se balancent dans le courant. Quelquefois, Summer est là, immobile, juste sous la surface. Ses yeux sont grands ouverts, elle essaye de dire quelque chose ou alors de respirer. Ses cheveux bougent dans le courant, elle semble vivant. Je tends la main, mes doigts effleurent la surface, mais ce n'est pas elle. Ce sont les algues qui ont dessiné un corps, où quelquefois c'est un animal sombre rapide qui rampe sous l'eau entre les pierres. Pourtant, je sais qu'elle vit là-bas. Voilà, c'est le tout début de Summer de Monica Sabolo. Et si nous entendions quelques mesures de Led Zeppelin, c'est Elisabeth Philippe et son t-shirt des Ramones qui vont ouvrir le bal sur ce roman Summer.
Summer, donc le narrateur, la personne qui s'exprime dans le passage que vous venez de lire, c'est Benjamin, le frère de Summer. Summer qui donne donc son titre au roman de Monica Sabolo et qui est la grande absente du livre puisqu'elle a disparu l'été de ses 19 ans. Et son frère Benjamin, 24 ans plus tard, est toujours hanté par ces questions. Qu'est devenue Summer? Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle s'est noyée donc dans ce lac? Et traumatisé, obsédé par ces questionnements, il est pris d'attaques de panique, de crises d'angoisse, il ne peut plus travailler, il consulte donc un psychiatre et se replonge, c'est vraiment le terme, dans ce moment où sa sœur a disparu, dans ce passé aussi, pour essayer de reconstituer les éléments qui ont conduit à la disparition donc de sa sœur. Tout ça se passe en Suisse, donc au bord du lac Léman, à Genève. Summer et son frère Benjamin appartiennent à une famille de la haute bourgeoisie suisse. Le père est un avocat extrêmement brillant, plutôt spécialisé dans la défense des escrocs en col blanc et des évadés fiscaux. La mère est une Française, extrêmement belle, elle aussi, comme sa fille Summer, mais toujours l'air un peu absent, somptueuse dans des tenues extrêmement sophistiquées, capable de, lors de soirées de fêtes déguisées, le thème est le noir et le blanc, de se mettre un petit sparadrap noir et blanc alors qu'elle vient de se faire opérer du nez. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui parcourent le livre. On a donc affaire à un monde extrêmement lisse en apparence, très polissé, très propre, suisse.
Et petit à petit. Ah non, commencez pas avec les clichés, Elisabeth.
Pardonnez-moi, c'était une petite licence humoristique que je me suis octroyée. Non, en tout cas, un monde extrêmement lisse, malgré tout. Monica Sabolo décrit ces intérieurs immaculés dans lesquels évolue cette famille, qui en apparence est une famille plus que parfaite, et dans laquelle le jeune Benjamin fait figure un peu de vilain petit canard. Et au fur et à mesure des réminiscences du Benjamin devenu adulte, on va se rendre compte évidemment que tout cela n'était pas aussi lisse et que les eaux limpide du lac cache un fond vaseux et d'inavouable secret.
Ça, c'est bien dit, parce que vous n'en dites pas trop, hein, évidemment. Il ne faut pas gâcher ce plaisir de lecture. Très bien dit. Donc, on passe au sujet suivant. Raphaël Léris, pour commencer sur Summer.
C'est un des textes que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette rentrée, que je trouve très beau, dont je trouve qu'il est qui me montre la progression de Monica Sabolo, dont était très beau le Crans Montana. Et l'année d'avant, tout ça, deux ans avant, tout ça n'a rien à voir avec moi. Ce que je trouve magnifique chez Monica Sabolo, c'est une écriture faite de métaphores. On a pu entendre dans le passage que vous avez lu la place de la métaphore aquatique, disons, qui donne l'impression d'évoluer avec une espèce de lumière aqueuse, un peu verte autour de soi, que les mouvements sont ralentis comme dans l'eau. Et je trouve que ça donne une beauté assez sidérante à ce texte, une beauté inquiétante aussi. Et ça donne l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a une forme de force qui rappelle un peu Joyce Carol Oates, y compris dans ce qu'on pourrait trouver être un trop-plein de symboles si vraiment on avait envie de chercher la petite bête. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un des très beaux textes de cette rentrée.
Alors, j'avoue, j'ai été pris, on l'a compris, hein, de la première à la dernière page. D'abord, la beauté de la langue, ça c'est une certitude, mais aussi la précision des personnages. Je ne résiste pas à faire une autre petite citation, parce que pour dire comme Monica Sabolo arrive par moments à croquer quelqu'un en quelques lignes, assez tard dans le récit, Benjamin va retrouver le détective qui avait été chargé de l'enquête autour de la disparition de Summer, et je vous livre juste ce tout petit paragraphe où elle dit « Alvaro Aibischer sort de l'ascenseur en chemise, ses manches sont relevées sur des avant-bras recouverts de poils noirs, et je l'imagine un instant se battre avec un ours. Il n'a pas vraiment changé, sauf peut-être ses cheveux et un renflement juste au-dessus de son pantalon, trahissant les méfaits de la vie de bureau sur les grands prédateurs. » Ouais, voilà, moi je crois que c'est Alvaro, je l'ai en face de moi, je vois très bien le personnage, on va le suivre. Il y a des possibles fulgurances comme ça dans la description, dans des éclats, et puis dire, mais laisser aussi Jean-Christophe Brianchon en parler, qu'il y a cet effet, oui, à queue et opaque en même temps. Ce sont les eaux d'un lac, hein, c'est quelque chose où le fond peut... cache pas mal de choses.
C'est très bachelardien, en fait. C'est vraiment l'eau et les rêves.
Absolument, mais qu'à la fin de ce livre, sur les 30, 40, 50 dernières pages, il y a une accélération en mode thriller qui fait que moi, je ne pouvais plus du tout le lâcher. Déjà que je l'ai lu quasiment d'une traite. Mais alors, cette fin est... Parce que c'est une question que moi, je me suis posée au début de la lecture. Je me suis dit, bon... Où est-ce qu'on va avec cette histoire? Il y a, je sais pas quoi, 200, 300 pages, 200, presque 300 pages. Est-ce qu'elle va nous tenir? Est-ce qu'il va y avoir une vraie fin? Alors, on ne dira rien, mais il y a quand même une vraie fin, ce qui n'était pas tout à fait gagné au départ de la lecture. Jean-Christophe Brianchon, sur Monica Sabolo.
C'est justement ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on ne termine pas du tout comme on avait commencé et que ce livre n'est finalement jamais... ce qu'il paraît être ou ce qu'on pense qu'il allait être. Parce que au départ, on pense que ça pourrait devenir un simple polar un petit peu classique. Cette jeune fille a disparu dans cette famille parfaite. Où est-elle? Qui l'a enlevée? Et en fait, non seulement on n'est pas là, mais on ne sera pas ailleurs non plus. À chaque fois qu'on va avancer, on va passer vers un autre roman. Alors, à certains moments, on sera dans un roman d'amour, parfois juste une saga familiale, parfois dans quelque chose d'un peu plus psychologisant. Et puis, pour terminer sur quelque chose par la symbolique qu'elle utilise et qu'elle manie très bien, parfois on va aussi aller vers quelque chose d'assez métaphysique, pour ainsi dire. Mais finalement, on n'est jamais dans un seul de ces registres. On traverse un petit peu tout et on le traverse très bien parce qu'elle le fait avec beaucoup de talent. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, contrairement à un autre livre dont on parlera tout à l'heure qui s'inscrit réellement, je trouve, dans...
Faut parler de la serpe, je suis sûr.
Oui, mais bon, alors on en dit pas plus, mais je trouve que c'est... voilà, là, c'est un livre qui... finalement n'assume jamais d'être ce qu'il est tout en assumant du coup d'être tout à la fois, et je trouve ça très intéressant du coup ce qu'elle parvient à faire, et cet ancrage dans l'élément aquatique effectivement est aussi très intéressant parce qu'il nous permet de traverser tous ces genres jusqu'au, pour moi, le sens réel de ce livre, qui est une espèce de recherche de la mémoire, du souvenir et la façon dont chacun, à sa manière, peut tenter, par des subterfuges X ou Y, d'enfouir son réel et d'enfouir ses souvenirs jusqu'à vivre une vie qui ne devrait pas être la sienne, en fait. Et donc tout ça est très bien fait, très bien ficelé. Je crois qu'on est assez unanime.
Oui, on ne va pas se disputer autour de ce livre Summer, mais peut-être donner davantage envie encore à celles et ceux qui nous écoutent de le découvrir. Parce que ça, à un moment, on pourrait penser aussi, Raphaël Léris, que c'est un roman de la dépression, un de plus. Parce que c'est quand même jalonné de ces séances chez le psy. Il y a quand même tout un récit de déchéance, d'effondrement intérieur de Benjamin, qui n'est pas la partie la moins réussie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a une qui est moins réussie qu'une autre. Mais comme le dit Jean-Christophe Brianchon, on est toujours surpris.
Et oui, c'est là que Summer va puiser du côté de Fritz Horn, qui est quand même un très grand Suisse sacrément acerbe. Et c'est là que il me semble que le mal de Benjamin, c'est de ce côté-là qu'il lorgne. Et c'est là que le petit trait d'humour tout à l'heure d'Elisabeth sur la Suisse et son côté impeccable, n'est pas fautif. C'est vrai, c'est aussi ce dont parle ce livre. Et il y a une phrase, notamment, où à un moment donné, Benjamin dit qu'il est... à chaque fois qu'il a sa mère au téléphone, il lui dit qu'il est fatigué. Et il dit « La fatigue, c'est ainsi que l'on qualifie à peu près tout dans notre famille, tout ce qui implique le chagrin ou la honte. » Et voilà. Et ça, c'est Mars, c'est ce grand livre de Fritz Horn, qui c'est de là que vient, il me semble, une forme d'inspiration chez Monica Sabolo, mais très subtile, et puis...
parfaitement digérée, qui n'appartient qu'à elle. Mais je vous taquine, Elisabeth, sur nos voisins de la Confédération helvétique.
Bien entendu, bien entendu. Non, c'est un roman extrêmement fluide, hein, si on veut continuer dans cette métaphore aquatique. Et on pourrait penser, parce qu'on a beaucoup parlé de cette esthétique un peu vaporeuse, de ce halo qui semble nimber l'univers de Monica Sabolo, et qui fait qu'on l'a beaucoup rapproché, notamment dès qu'en Smontana, son précédent roman, on l'a beaucoup rapproché de l'esthétique Sofia Coppolienne, si vous permettez de m'exprimer ainsi. Sauf que c'est pas du tout esthétique. courtisan chez Monica Sabolo.
Moi, j'aime pas du tout Sofia
Coppola.
Je sais bien. Je vois bien le rapprochement qu'on peut faire, mais il est complètement. Alors, pour le coup, il est ultra superficiel, ce rapprochement.
Mais dans sa façon de saisir la beauté des jeunes filles. En tout cas, c'est un rapprochement qui a été beaucoup fait. Ouais. Je trouve qu'il est peut-être moins sensible dans Summer. Mais c'est vrai qu'il y a cette beauté indéniable de l'écriture de Monica Sabolo, très maîtrisée. Je trouve qu'il y a vraiment. Elle a passé un cap avec ce roman-ci. Et donc, il n'y a pas non plus de dérive esthétisante. Et parce qu'il y a quand même un propos très tranchant, ce que Raphaël disait à l'instant en évoquant le lien ou l'évocation subtile de Fritz Zorn. Il y a un propos très tranchant, il y a une vraie dureté quand même aussi dans Summer. Certes, ce n'est pas un roman de la dépression, mais c'est un livre sombre. On est plutôt du côté opaque.
Et moi, il y a
justement, ça m'a donné envie de relire quelques pages de Bachelard que j'évoquais tout à l'heure, donc de L'eau et les rêves. Et il y a notamment tout un passage consacré au complexe d'Ophélie. Donc, on est en plein dans ce complexe d'Ophélie. Ce personnage d'Hamlet, Summer, est un avatar d'Ophélie. Et Bachelard cite des mots de Mallarmé qui, je trouve, s'appliquent parfaitement à ce roman. Mallarmé parlant d'Hamlet, il parle d'une Ophélie jamais noyée, joyau intact sous le désastre, et je trouve que c'est exactement ce que réalise Monica Sabolo avec Summer, de nous donner un joyau intact sous le désastre.
Mais c'est bien dit aussi. Jean-Christophe Brianchon, qui lui aime beaucoup Sofia Coppola.
Que j'aime énormément, malgré son dernier film. Mais le désastre, effectivement, je trouve que quand même, on n'est pas dans un livre de la dépression. Pour autant, on s'inscrit quand même réellement, effectivement, je trouve plus que dans quelque chose de sombre, réellement, il y a quand même une forme de fatalisme. Parce que moi, je trouve qu'il y a deux phrases qui se répondent et qui, je trouve, nous montrent assez bien. Elle commence le livre en faisant parler son narrateur et en lui faisant dire « Je suis la preuve vivante que l'on peut vivre sans les êtres qu'on aime le plus. » Donc là, on se dit que ça va peut-être aller bien. Et finalement, en fait, quand même, il y a une sorte de fatalisme qui s'abat non seulement sur lui, mais aussi sur sa famille. Puisqu'on sent que cette famille est complètement enfermée, comme il le dit, enfermée dans sa légende, dont elle n'arrive pas à sortir. Et au détour de certaines phrases, on sent aussi quand même tout de même que malgré tout, le malheur et la tristesse surplombent et qu'ils auront du mal à s'en défaire. C'est ce qu'elle dit à un moment, elle parle de Summer, enfin il parle de Summer, et il dit « elle s'était dissoute, envolée, comme tout le reste ». Et bon, alors ce « comme tout le reste », quand même, c'est pas rien, quoi. Et elle termine un chapitre là-dessus, ouais. Me semble-t-il. Donc, malgré tout, il y a quand même une espèce de douce tristesse qui persiste, et dans lesquelles ces personnages semblent relativement enfermé, peut-être noyé, même si on veut continuer.
Lisez, à tout le moins.
Après, pour moi, c'est pas du tout un défaut.
Non, mais pas du tout. Je voulais dire, ce n'est pas un livre que de la dépression. C'est pas un roman que de la dépression. C'est pas un roman que Sofia Coppolesque. C'est pas un roman que d'auscultation de la vie de nos voisins suisses. C'est pas voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Boris Pinot, vous en avez relevé quelques-unes aussi parmi nos auditeurs.
Oui, Arnaud. Oui. F. Mérode sur Twitter écrit à propos du livre de Monica Sabolo, qu'il s'agit d'un très bon livre sur les périodes de rupture et les traces qu'elles peuvent laisser. Elle souligne également la réussite dans sa composition de la figure de l'absente. Il pointe toutefois quelques insistances rares, heureusement, sur des détails pour, je cite, « faire suisse », mais conseille vivement.
Bon, allez, c'est un ami à vous, je pense, Elisabeth.
Mais justement, on n'en a pas parlé, mais je suis tout à fait d'accord avec F. Mérode, que je ne connais pas.
On le connaît, hein, je crois qu'il vit à Genève. Hein. En tout cas, en Suisse.
Il vit tout près du lac.
Je ne le connais pas personnellement, en tout cas, mais je sais que c'est un
Il est venu nous visiter une fois à la radio.
Mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'une des prouesses de ce livre, c'est la façon dont elle parvient à dépeindre parfaitement la personnalité de cette jeune fille disparue sans que jamais elle soit présente dans le roman, finalement. Et donc, elle arrive à incarner, non seulement elle arrive à incarner cette jeune fille, mais aussi le narrateur, qui se trouve être un jeune garçon de 19 ans. C'est quand même une double prouesse parce que elle n'a pas 19 ans, elle n'est pas une femme, elle n'est pas un homme. Il y a plein de choses qui... Bon, et du coup, elle arrive parfaitement à s'intégrer dans tous ces personnages et du coup, à les dépeindre avec... un talent, je trouve, assez remarquable.
Le garçon est tout petit, hein, quand ça sert des... Enfin, tout petit, là, 50 mois, 14 ans.
Il doit avoir 14 ans, quelque chose comme
et
ça.
Et on le retrouve donc 24 ans et 3 mois plus tard pour la partie contemporaine. Il y a tout ce jeu aussi de temporalité qu'on n'a pas évoqué, qui n'est pas la moindre des fluidités de ce livre, pour reprendre ce joli terme. Bon, encore un éloge, encore quelque chose à ajouter. Ouais, Raphaël Léris.
Je voudrais juste dire que comme Crans-Montana, c'est un très beau livre de l'absence, qui était un motif fondamental.
Je vais le lire maintenant, voilà, hein, Crans-Montana.
ce que, vous disiez sur, le fait que Summer, enfin, que le livre est construit autour de l'absence de Summer, de même que Crans Montana était construit autour de l'absence de trois jeunes filles, enfin, et surtout de l'absence d'une génération précédente. Et en fait, ce que je trouve très beau avec Summer, c'est que non seulement ça montre que Monica Sabolo progresse, mais aussi ça, elle construit une œuvre extrêmement cohérente, extrêmement forte, autour de la question des apparences. Tout ça n'a rien à voir avec moi, Crans Montana et Summer sont tous les trois des livres qui forment une traversée des apparences, qui plongent la main dans l'eau pour remuer la boue, en quelque sorte, d'une manière très élégante. Et voilà, et ça, je trouve qu'il faut le saluer chez cet auteur qui a tout quitté pour écrire. Je trouve assez beau aussi.
Bon, je vais lire les précédents. Vous voulez ajouter quelque chose, Elisabeth Philippe ?
Non, j'approuve absolument.
Bon, nous approuvons tous quatre ce Summer de Monica Sabolo, paru chez Lattès. À suivre dans la dispute Pierre de Marty et Philippe Geneda. Si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le deuxième sujet au sommaire de cette dispute littéraire ce soir, c'est Le petit garçon sur la plage, le troisième livre de Pierre de Marty. Il y a une image. Sur cette image, on voit un petit garçon sur une plage. Le petit garçon porte un t-shirt rouge, légèrement remonté sur le ventre et le dos, laissant apercevoir une bande de peau blanche et un short bleu marine ou noir, ou un pantalon remonté aussi sur les mollets petits et blancs jusqu'aux genoux. Ses deux petits pieds sont chaussés de baskets bleues ou noires, on ne sait pas, on ne voit pas bien, aux semelles en caoutchouc beige foncé. Il a les cheveux courts, bruns ou noirs, presque ras au niveau des tempes. La peau de son visage est très blanche, on ne voit pas bien son visage, on est loin, ou un peu loin, un peu trop, à une certaine distance, près mais pas trop. On ne voit pas les détails précisément, on voit bien mais on ne voit pas très bien, on distingue, on voit mais suffisamment. Je pense qu'on aura peut-être déjà reconnu à la lecture de ces premières lignes là. Une photo qui a fait la une de très nombreux journaux dans le monde, c'était le 3 septembre 2015, pas seulement du journal Le Monde. Je ne sais pas d'ailleurs, il y avait une une ou pas, parce qu'il y a eu tellement de débats sur cette une de petite Elan, qui en fait s'appelait Alan, ai-je lu depuis, son prénom a été mal orthographié à l'époque. Jeune garçon syrien, mort, noyé, retrouvé sur une plage de Turquie. Mais alors, si le livre de Pierre de Marty s'appelle « Le petit garçon sur la plage », en fait, il y a deux petits garçons sur la plage dans ce livre. Le second étant un personnage de fiction dans le film « Under the Skin » de Jonathan Glazer. On peut dire qu'il y a aussi un autre garçon dans ce livre, c'est le narrateur, confronté à ces deux images et à la déflagration qu'il ressent quand elle se rencontre dans son esprit. Celui de Pierre de Marty, publié chez Verdier. Jean-Christophe Briançon, pour commencer.
C'est un livre qu'on pourrait inscrire un peu dans la même veine que celui de Frédérica Amalia Finkelstein dont on a parlé la semaine dernière, si ce n'est que l'auteur a 15 ans de plus qu'elle et un vécu peut-être un petit peu plus solide, on va dire.
Je ne connais ni l'un ni l'autre personnellement, donc je ne me risquerai pas à acquiescer ou à démentir.
Solide du simple fait de son âge.
De l'état civil.
De son état civil, parce que je ne connais ni l'un ni l'autre non plus. En tout cas, on peut les mettre dans la même veine, parce qu'il s'agit, comme pour l'un comme pour l'autre, du récit d'un narrateur qu'on imagine être assez proche de l'auteur, de faits qu'il n'a pas vécu directement et qui sont finalement des faits prétextes qui lui permettent simplement de décrire au lecteur l'infini malheur que le monde manifestement leur fait ressentir. Je pense que c'est un prétexte parce que là, que ce soit effectivement cette photographie du petit Alan ou cette scène de film qui est une scène d'un enfant abandonné également sur une plage, ce sont finalement que des prétextes qui permettent au travers d'une description très minutieuse simplement de nous permettre d'accéder à sa vision du monde et au malheur qui semble être le sien. Ceci dit, ça va quand même être un petit peu au-delà de ça, je trouve. Alors c'est peut-être là que justement ça va au-delà du livre de Friederike Maria Finkelstein, c'est que justement le prétexte, bien qu'il ne soit que prétexte, l'auteur s'en sert également, je pense, pour aller réellement chercher une forme, chercher un style, chercher des mots. Dans ses descriptions, en l'occurrence de la photographie ou de la scène de cinéma, il est très concis, très précis. Et donc là, à ces instants-là, à certains moments, je trouve qu'il parvient à inventer, en tout cas à explorer une langue, explorer les mots, explorer la puissance des mots. Et là, j'ai trouvé ça particulièrement brillant.
Raphaël Léris, sur ce petit garçon sur la plage.
Moi, j'ai un petit peu peur en lisant les premières pages, celles que vous venez de lire. Il y a un passage où le narrateur lit toutes les nouvelles qui lui arrivent sur un ordinateur le 3 septembre, au matin, où on voit l'image d'Eilan. Et il y a notamment la mort du poète Denis Roche qui disait « La poésie est inadmissible ». Et c'est un petit peu à ça qu'on pense, après coup, quand on a lu les premières pages et qu'on se dit où va-t-il avec cette écriture lancinante, cette espèce de recherche d'écriture blême, ce sens de la répétition. Donc moi, ça m'a fait un petit peu peur. Après, il y a ce passage, ensuite, il y a la description de l'autre image. Je trouve que la superposition des deux est assez didactique et pour moi, fonctionne pas forcément, mais ce que j'ai aimé, c'est la réflexion sur la paternité qui arrive après, tout le passage après. Tout ce qu'il dit, je trouve qu'il a d'assez belles phrases sur notre petite vie quotidienne qui peut être très belle pendant que le monde dehors est atroce. Un an avait passé sur la toile de fond des atrocités du monde indifféremment décomptées et des petites joies communes de la vie à soi. Ou encore, le monde était horrible, évidemment, et la vie bien belle en ce nouveau début de septembre. Et ça, je trouve que ça raconte quand même assez bien ce qu'on peut avoir l'impression de vivre au quotidien, bombardé d'informations et en même temps, ce qui n'empêche pas d'avoir une existence heureuse. Voilà, et la manière dont après il explore le rapport à la paternité de son personnage, je le trouve assez beau. Ce que c'est que d'être père dans ce monde où on a peur, je trouve ça vraiment vraiment réussi. Voilà, moi j'ai eu peur pour le coup sur les 20 premières pages, et puis après je trouve que le livre fonctionne. Voilà.
Elisabeth Philippe.
Je rejoins assez Raphaël Léris sur son constat, sauf que moi ces 20 premières pages, mais qui me semblent être plus longues, mais peut-être parce que le temps m'a paru particulièrement long en les lisant. Je pense que c'est plutôt les deux tiers du livre. Ça m'a vraiment posé problème. C'est compliqué après d'émettre un avis critique, tranché sur un sujet comme celui-ci, puisqu'évidemment, la volonté est très louable. On voit bien que s'il s'appesantit autant sur la description de la photo, c'est peut-être pour essayer de l'ancrer davantage par les mots, puisque ce qu'il montre très bien, c'est effectivement en retraçant ce flux d'informations, en montrant à quel point l'image a fini par se noyer au milieu de tout un reste, de tout le flux d'informations et de drames. Là, peut-être que par les mots, ces mots insistants, lancinants, il va l'ancrer davantage dans notre mémoire. Mais contrairement à ce que disait Jean-Christophe Briançon, moi je trouve pas du tout qu'il invente une langue et que ce soit réussi. Malheureusement, je trouve que effectivement il y a ce côté très didactique. Je retrouve un peu ce que j'appellerais le syndrome Fuenkinos. Quand on veut faire grave, on fait des phrases très courtes parce que c'est suffocant, puis on met beaucoup de blanc entre chaque phrase parce que voilà, la douleur est tellement saisissante. Donc moi j'avais du mal. Ça donne quand même lieu à des parce que d'écrire des images, ça peut être passionnant. Et là, je trouve que toutes ces parties de description d'image, ça ne donne rien. C'est pas Georges Didier Huberman qui nous décrypte une image ou qui nous la décrit. Là, c'est très très plat. Et on a quand même des phrases comme pour bien nous montrer la différence entre une image, une photo et puis une image de film. L'une, c'est une image qui bouge. L'autre, une image qui ne bouge pas. Là, j'avoue que j'étais quand même un peu à bout. Enfin, ma patience était mise à rude épreuve. Ensuite, je suis d'accord. La dernière partie, et d'ailleurs, la langue se déploie, se libère, je pense aussi, lorsqu'il est question des effets et de la déflagration dont vous parliez, Arnaud, de ces images sur le narrateur et sur sa façon de vivre sa paternité, son rapport à ses propres enfants, à ses fils. Là, je trouve qu'effectivement, il y a des choses très belles, mais ça m'a paru très court en regard de ce long tunnel de un peu incantatoire, répétitif et assez plat et assez vain.
Bon, voilà des avis un peu contrastés. Moi, je ne suis pas très à l'aise non plus avec ce texte, je dois le dire, mais pour le coup, comme pour Frédérica Amalia Finkelstein, dont on parlait la semaine dernière, rappelons qu'elle décrit très longuement aussi la photo des victimes du Bataclan dans la fosse de la salle de concert, et que même si les livres et les projets sont guère comparables, le problème que j'ai eu avec le livre de Pierre de Marty, c'est qu'il est quand même, lui aussi, sans cesse, quand même, sur le fil, que j'avais quelques inquiétudes aussi aux premières pages, mais je ne savais pas où était censé mener ce fil. Et je me demandais, en fait, quel était véritablement le projet. Alors, quand la deuxième image arrive, le deuxième petit garçon, plus exactement, là, ça m'a rendu encore plus perplexe, parce que mettre en regard une photo d'actualité et une séquence de fiction cinématographique, ça me semble extrêmement problématique, enfin pour moi, sur ce sujet-là. Par ailleurs, je trouvais Under the Skin un film épouvantablement raté, mais ça, je suis assez minoritaire, mais j'assume. Et en effet, comme quoi on a lu quand même le même livre, les uns et les autres en tout cas, c'est que je regardais pendant que vous parliez, Elisabeth Philippe, aux deux tiers, effectivement, son chapitre 11, très précisément, il y a un homme en bas de chez moi, assis en tailleur devant le petit supermarché qui fait l'angle, il est toujours là, un homme qui vit là, dans la rue, sur le trottoir. Il y a quelque chose qui commence à se passer là, comme si la vie arrivait. J'ai l'impression d'avoir lu le texte d'un homme, alors d'une certaine façon, pas dans un lac, mais dans une sorte de brume, d'indécision, tout à fait en perte de repère, et donc il cherche à s'accrocher à ces images-là, mais totalement perdu, et tout d'un coup, oui, une fois que la question de la paternité vient véritablement, parce qu'elle est évoquée hein, au fur et à mesure du livre, il se passe quelque chose pour moi. Donc voilà, il se passe quelque chose dans le dernier tiers du livre pour moi. Mais parole à Jean-Christophe Brianchon qui a plus de goût dans l'ensemble pour ce livre.
Ah, c'est plus que du goût, c'est que j'ai vraiment trouvé que c'est un livre remarquable. Et remarquable, alors après, pour ce qui est de la réussite formelle finale, ça on peut en discuter, mais je trouve qu'en tout cas la démarche est éminemment louable, on va dire. Non seulement la démarche, je trouve, de tentative, alors encore une fois, c'est réussi ou non, mais de tentative d'une écriture et d'un style réel. Alors, c'est un petit peu appuyé, bien sûr, mais ça,
c'est
pour autant...
C'est la moindre des choses qu'on puisse demander à un écrivain, ou quelqu'un qui veut l'être.
Demandons-leur, alors.
Non, mais je leur demande. Hein.
Voilà, c'est pas si courant que ça. Je trouve que c'est assez remarquable d'avoir un auteur qui réellement s'y colle. Alors après, réussi ou non. Ça, on peut en discuter.
Ils sont quelques-uns et quelques-unes à s'y coller.
Bien sûr qu'il y en a. Bon. Mais, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en l'occurrence, il est édité dans une petite maison. C'est pas non plus.
Ouais, c'est une maison qui a de grands auteurs.
C'est une maison de grande qualité. C'est pas pour rien qu'il y ait. Mais bon, ça veut aussi dire quelque chose des auteurs qui recherchent. Et là, je trouve que lui recherche, peut-être rate, mais recherche. Moi, je trouve qu'il ne rate pas. Et au-delà de ça, je trouve qu'il est toujours intéressant, comme je le disais la semaine dernière sur Survivre, d'avoir affaire à un auteur qui réellement nous force à nous confronter
en l'occurrence, à un certain sentiment de tristesse, nous force à nous confronter à un état du monde alors, dont lui estime que le monde va ainsi, en l'occurrence mal, manifestement. Mais je trouve ça intéressant
de lutter contre cette assertion.
Voilà, mais je trouve ça intéressant d'y être confronté.
Je vous suivais là-dessus la semaine dernière, je vous suis là encore.
Durement. Hein, mais... De la même manière, là aussi exactement, que je trouve intéressant le rapport qu'il entretient à l'image et ce qu'il essaye d'en faire, je trouve ça intéressant.
Mais si on fait texte à texte, je vous laisse poursuivre, mais quand vous parlez de tentatives littéraires, à la limite, c'est un peu dur de dire ça, je trouve que la description par Frédérica Amelia Finkenstein de la photographie de la fosse du Bataclan avec tous ses morts est littérairement plus intéressante, j'ai vu même beaucoup de guillemets, que la description de la photo d'Eilan, que comme je partage plutôt l'avis et d'Elisabeth Philippe et de Raphaël Néris, qui est un peu beaucoup plus attendue, beaucoup plus alors c'est
très insistante.
Insistante, je la trouve intéressante et touchante justement là-dessus parce qu'elle se cherche et dès la première page.
Je crois qu'elle se trouve tout de suite. C'est ça le problème que j'ai avec cette écriture là.
Non mais lui cherche la réalité de cette image et dès le début il dit on est loin ou un peu loin, un peu trop, à une certaine distance, près mais pas trop. On ne voit pas les détails précisément. On voit bien mais on ne voit pas très bien. On distingue. Ouais. Et je trouve que là il y a une tentative de recherche recherche de l'exactitude de ce que pourrait être cette image. Alors, on peut trouver ça lourd, on peut ne pas y être sensible. En tout cas, je trouve ça remarquable de pouvoir assister à la tentative d'un auteur. En fait. Ça me touche.
Là-dessus, je suis toujours pour les auteurs qui tentent. Hein. Alors, je défendrai Pierre Marty.
Tente et en l'occurrence, selon moi, réussi.
Ouais, non, mais, voilà. Moi, je préfère des gens qui essayent et qui ratent, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas de Pierre Marty. Hein. Je ne dis pas qu'il rate totalement. Elisabeth Philippe.
Oui, sur cette tentative, je la reconnais, mais je trouve qu'elle est déjà un peu trop visible. Moi, j'aime bien quand le travail ne se voit pas. Et je trouve qu'il y a une forme d'artificialité. Et j'y suis d'autant. Peut-être que Pierre de Marty, face à l'énormité du drame dont il s'empare, de cette image, s'est retrouvé un peu inhibé parce que je me souviens de son premier roman, En face, que j'avais beaucoup aimé. Et il y avait une vraie fantaisie, toujours dans une simplicité, une langue très, très simple et vraiment une économie de moyens. Mais là, je sens une forme d'inhibition, en fait, et avec cette simplicité, cette fausse simplicité, ces maladresses aussi, très travaillé. Donc je sens une forme d'inhibition. En fait.
Raphaël Léris.
J'avais aussi beaucoup aimé En face. Ce que je retrouve dans Le petit garçon sur la plage, c'est cette exploration de comment une vie normale, et vraiment une vie qui ne fait pas de bruit, à qui la vie n'a pas fait de bruit, dit-il, comment une vie comme ça déraille. Comment il y a une béance qui s'instaure et ce qui se passe après. Et alors, moi, je préférais la manière dont c'était exploré dans En face, qui était un roman échenosien en diable, y compris dans le nom de son protagoniste, qui était Jean Nochez, je crois. Mais il y a aussi quelque chose qui se poursuit et qui est intéressant à voir à l'œuvre.
Le petit garçon sur la plage, c'est ce livre de Pierre de Marty dont nous parlions. Il est publié aux éditions Verdier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons avec La Serpe de Philippe Geneda qui s'offre en couverture comme un grand cluedo pour une partie qui va se révéler pour le moins complexe et peut-être inattendue.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. quand ça me notait.
Alors, dire d'abord que j'aime beaucoup Georges Brassens, Swin et Philippe Janeda, oui, ses premiers livres, j'ai des souvenirs réjouis du chameau sauvage, de Néfertiti dans un champ de canne à sucre. Ça m'avait tout à fait enthousiasmé à l'époque. Ça date, hein. Vous n'étiez pas né, évidemment. 20 ans.
Oui, pour chameau sauvage. Ouais.
Je pensais plus. Bon, ça me rajeunit presque. Il y avait une écriture, un sens du récit, une énergie. Et donc, il y a une longue série de romans qui piochaient très visiblement dans la biographie de l'écrivain Philippe Janeda. Et là, depuis quelque temps, il s'intéresse à la vie des autres. C'est ce qu'il a fait cette fois-ci à nouveau avec la vie d'Henri Girard, soupçonné d'un triple meurtre, acquitté, exilé, revenu en France, avec un manuscrit sous le bras, qui paraîtra sous le nom de Georges Arnaud, qui donnera le salaire de la peur. Et le film qu'on connaît, d'Henri-Georges Clouzot, mais aussi le convoi. C'est Convoi de la peur, comment s'appelle-t-il le film de William Friedkin?
Le Convoi de la peur.
Le Convoi de la peur, magnifique film de William Friedkin qui est ressorti il y a peu de temps. Enfin, je m'éloigne du sujet parce que c'est Henri Girard et c'est surtout Philippe Janeda qui nous intéresse et nous intéresse de savoir comment sa voiture peut ou non tomber en panne dès les premiers mètres de son enquête. Moi, je veux dire que cette entrée en matière déjà m'a tout à fait réjoui. Raphaël Léris.
Voilà, vous avez placé la conversation l'égide du Cluedo, et évidemment c'est de ça dont on a l'impression, parce que les premières pages sont le plan du château des Squares où a eu lieu le triple meurtre, et puis de ses environs. Il y a d'ailleurs, on assistera plus tard à la conversation entre Janeda et son éditeur, parce que Janeda ne se dépêtre pas de sa description, donc il appelle Bernard Barrault chez Julliard en disant « Est-ce que je peux mettre un plan, s'il te plaît ?» accordé. Et voilà, donc il y a ces plans. Et puis, donc vous parliez de la voiture, il y a un espèce d'esprit très ludique dans les premières pages de la Serpe, sur le mode « Allons-y les amis, à la recherche d'un vieux mystère, est-ce que ça sera le colonel Moutarde avec son chandelier ou Mademoiselle Rose avec la corde ?» Et en fait, donc, Henri Girard a été accusé de ce triple meurtre. Il a été acquitté à la surprise générale grâce à Maurice Garçon, son avocat, qui a retourné les jurés. Pas pour longtemps, visiblement, puisque dès le lendemain, Henri Girard a été de nouveau soupçonné, d'autant que personne n'a voulu ensuite savoir qui avait pu commettre le crime une fois que Henri Girard avait été innocenté. Donc toute sa vie, ça a collé à la peau d'Henri Girard et ça fait évidemment une cassure dans son existence. Et donc, sur l'insistance d'un ami qui est le petit-fils d'Henri Girard, Janeda commence à mener l'enquête. Et donc on part sur ce mode joyeux, ludique, club des cinq. Et puis à mesure qu'il plonge dans le dossier judiciaire, et là c'est vraiment un livre d'exégèse qui s'ouvre, on passe dans une forme de tragique, en tout cas de sérieux, même si Janeda, qui est connu pour ses digressions drôlatiques, ne déroge pas à cette règle qu'il s'est fixée d'avoir une espèce d'élégance de sourire en permanence. Et donc ça devient un texte que je trouve très beau, qui s'acharne à dire, puisque je pense profondément, grâce à notamment au truc de Maurice Garçon, à la correspondance de Maurice Garçon, à ce qu'il a pu trouver comme indice, puisque je pense qu'il est innocent, ça signifie qu'il faut lui rendre son droit au chagrin, l'amour de son père. Et donc ça devient un texte très beau pour l'honneur d'un homme, il me semble. Et par ailleurs, un texte très beau sur l'amour paternel. Il y a de très jolies déclarations pudique de Janeda à sa famille, à son fils Ernest, à sa femme Anne-Catherine, comme dans tous ses livres. Mais je trouve que là, ça prend une ampleur grâce à la figure d'Henri Girard et la manière dont il veut le rétablir comme victime lui aussi.
Jean-Christophe Brianchon se replonge dans ses notes, un peu dubitatif. Hein.
Oui et non, parce que je suis quand même tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a quand même une véritable beauté dans le désir de l'auteur de rétablir l'honneur de cet homme et de rétablir effectivement, comme vous le dites très bien, son droit au chagrin. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant et très beau, et c'est d'ailleurs dit, je trouve, de manière assez chouette quand il parle... Chouette.
Pourquoi pas.
Chouette.
Voilà. Non, c'est bien.
C'est chouette.
Alors,
et je trouve
ça assez batte, moi. Mais bon.
Ne me faites pas passer pour plus vieux que je ne le suis.
Non, mais c'est moi qui dis batte.
Mais effectivement, quand il parle donc de la personnalité d'Henri Girard,
Oui, parce que je m'y perds un peu entre les deux. Et donc, il y avait une personnalité très flamboyante, qui a dépensé beaucoup d'argent, d'argent qui n'était parfois pas à lui. Et justement, quand il a hérité de cet argent de son père, il dit cette jolie phrase, il dit qu'il avait dépensé cet argent qui n'était pas à lui et qui avait tué sa mère. Et ça, je trouve ça très beau et ça permet en partie de comprendre ce personnage. Ceci étant, je trouve que les passages qui nous permettent d'entrevoir justement le droit au chagrin de cet homme sont assez, trop rare, en tout cas. Et moi, je me suis retrouvé face à une espèce de cluedo, effectivement, dont je n'ai pas compris réellement le sens, ou en tout cas, je n'ai pas compris pourquoi Philippe Janada décidait de s'atteler à ça. Mais comme sur ses trois derniers livres non plus, finalement, il se met beaucoup en scène, donc on se dit que ça a un sens pour lui. Mais effectivement, c'est ça qui... Sans ça... C'est pour moi, ce livre est impossible. Heureusement qu'il se met en scène et qu'il se met en scène très bien. Parce que sinon, comme vous l'aurez peut-être compris avec le livre de Pierre de Marty, moi j'aime bien les auteurs qui nous permettent de comprendre un petit peu pourquoi ils s'attaquent à un sujet et qui, à travers leur livre, réellement nous font part de leur sensibilité. Là, je lis un auteur qui a décidé de s'attaquer à cette histoire, mais finalement, je ne comprends honnêtement pas exactement pourquoi. J'ai l'impression qu'il aurait pu s'attaquer à cette histoire comme à 10 000 autres. Et donc là, pourquoi ? Alors évidemment, cette histoire, cet homme, parce que cet homme a une vie flamboyante, avait manifestement une personnalité incroyable, on aurait tous aimé le croiser, donc pourquoi pas ?
Ça dépend à quelle heure et dans quel endroit.
Parce qu'il m'en a dépouillé de quelques-uns, donc éventuellement, on n'aurait peut-être pas tous aimé, mais en tout cas, ça a l'air d'être une personnalité truculente. Donc évidemment qu'il a écrit sur lui pour cette raison-là, entre autres, mais au-delà de ça, de ce que ça nous dit de lui et de sa démarche d'auteur, je n'ai pas exactement compris, mais je suis peut-être passé à côté de
alors,
quelque
Elisabeth
chose.
Philippe, alors Elisabeth Philippe va vous l'expliquer, je sens.
Non, mais c'est déjà pas mal, je veux dire, d'avoir une matière romanesque aussi formidable, je trouve que c'est une raison... Déjà assez valable pour avoir
envie.
Mais
est-ce que la matière fait roman ?
Moi, je trouve qu'elle fait tout à fait roman. Là, on a vraiment, c'est faites entrer l'accusé et Pierre Bellemare à la puissance 10. Philippe Janada avec une enquête, une véritable enquête qui est menée. Il y a un travail.
Pierre Bellemare. Pardon.
D'ailleurs, il évoque Pierre Bellemare.
Bien sûr.
Janada. Enfin, il se transforme vraiment en Hercule Poirot et on le voit à l'œuvre enquêter. Donc ça, c'est très amusant. Puis il y a un désir de justice qui l'habite de toute façon dans ses précédents romans. Pour Pauline Dubuisson, c'était la même chose. Et c'est quand même pas rien le travail auquel il se livre, même si, je dois dire, à titre personnel, par moments, il me perdait un peu dans ses démonstrations. Lui-même, est-ce qu'il n'est pas un peu à la façon de Maurice Garçon, une sorte de... Il définit Maurice Garçon comme le Houdini du barreau. Est-ce que Janada joue pas aussi un peu le Houdini? Parce que c'est tellement foisonnant, il y a tellement de choses que par moments, je dis, oui, bon d'accord, il a peut-être raison, mais j'ai perdu les détails. Même si la construction est très habile, il faut bien dire que parfois... On s'y perd. Vous parliez des descriptions pour lesquelles il n'a pas forcément de talent. Et c'est vrai que moi, au bout d'un moment...
C'est pas un mince volume. Hein, j'ai pas...
Non, ça fait 700 pages.
Voilà.
La rotonde, j'avais du mal à me repérer. Mais on ne perd jamais en plaisir de lecture, notamment grâce à ces fameuses digressions qui apportent un peu de légèreté bienvenue, parce que c'est quand même très très lourd, hein, ce triple meurtre à la serpe. Il explique qu'à un moment, que le tueur s'est acharné comme un boucher en crise de nerfs sur trois carcasses de veau. Donc, puis il décrit vraiment dans les moindres détails, mais sans que ce soit glauque, hein, d'ailleurs, ces corps déchiquetés. Et comme le faisait remarquer Raphaël, et c'est peut-être une autre explication à son envie d'écrire sur cette affaire, c'est aussi un très très beau roman sur la filiation, et notamment sur la relation de père-fils. D'ailleurs, la serpe, c'est l'anagramme de père au pluriel. Et oui, mais j'étais assez contente de cette petite trouvaille.
Inspecteur Philippe,
absolument,
bravo.
Absolument, merci. Merci, cher Watson. Et mais ceci mis à part, c'est vrai que c'est un très très beau roman. Je veux dire, quand il cite les lettres, puisque la première partie, les faits sont accablants pour Henri Girard. On a vraiment l'impression qu'il n'est intéressé que par l'argent, qu'il n'a que haine pour sa famille.
Tout l'accuse.
Il dit que il s'est trouvé un but dans la vie, c'est fomenter le désarroi des connards pour parler de sa famille. Donc,
c'est un horrible
individu.
C'est un but noble.
Parlez pour vous, moi je ne le partage pas, vous me permettez
de
le
comme ça, non ? Je trouve ça assez batte, moi.
Ouais, c'est assez batte et assez chouette, mais bon, en tout cas, ça ne le sert pas vraiment. On se dit que cette personne est un horrible individu. Et puis, dans le second temps, quand Philippe Janada entreprend de prendre la défense à son tour, à la suite de Maurice Garçon de Henri Girard, il cite notamment des lettres entre le père et son fils qui sont bouleversantes. Et lui-même, dans ses parenthèses, quand il évoque sa relation à son fils Ernest, c'est très très beau aussi. Il y a une vraie tendresse qui se dégage de ça. Donc je trouve que ça fait un roman très foisonnant et un roman d'aventure aussi, façon Club des Cinq.
Raphaël Léris.
Alors la dimension Pierre Bellemare est là, et puis l'hommage lui est fait aussi, mais il y a, je trouve que ça interroge aussi notre rapport aux faits divers. À plusieurs reprises, il dit « si, je vais en venir, vous allez en voir, on va s'amuser avec ces descriptions horrifiques », et je trouve que la manière dont il le met en scène et dont il repousse en permanence la description de la scène de crime et la répugnance finalement qu'il a à le faire, je trouve que c'est assez intéressant sur à la fois notre fascination pour les faits divers, y compris la sienne, et le respect qu'il a pour l'individu et les victimes qui sont au cœur de la chose. Après, sur la démarche de Jane Adda et son rapport aux faits divers et à la justice, c'est vrai qu'après avoir lu Le Chameau Sauvage ou La Femme et l'Ours, qui sont des romans où on réveille la personne à côté de soi quand on lit Jane Adda avec ces textes-là, on ne se disait pas qu'il aurait une carrière de justicier.
On réveille parce qu'on rigole. Hein.
Ouais, on réveille parce qu'on rigole. Ouais, vraiment,
qu'on a peur ou qu'on est énervé. Parce qu'on rigole, on rit à haute voix, si je puis dire.
À haute voix, on se gondole, vraiment.
Ouais.
Et donc, on lui dit... Enfin, moi, personnellement.
D'accord.
C'est pas très chic. Et donc, avec ces textes-là, on lui promettait pas forcément une carrière de justicier.
Pas vraiment.
Voilà, qu'il est devenu pas forcément avec celui-là, qui était un assez joli texte, je trouvais, sur cette figure flamboyante. Et pour le coup, on voyait pas moins le rapport entre lui et cet homme qu'avec donc la petite femelle sur Pauline Dubuisson, qui était un texte. Moi, Jane Adda depuis toujours travaille un peu sur le motif de la chute, et je trouvais que la petite femelle, comme la serpe, c'est un mouvement pour aider l'autre à se relever. Et ça, je trouve ça magnifique. Et par ailleurs, Jane Adda, j'avais rencontré pour un portrait, et il m'avait dit, et je pense qu'il ne voit pas, il ne ferait pas forcément le rapport directement, il m'avait dit que la première fois qu'il avait pensé à écrire au long cours, c'était après avoir été victime d'une injustice. En 93, il y a un vieux monsieur qui est agressé dans la rue, il se porte à son aide, et il se retrouve au poste pendant 48 heures, pris pour la personne qui avait agressé le vieillard. Et il m'avait raconté que c'était comme ça, pour raconter ça, qu'il avait commencé à écrire. Et donc je pense qu'il a un rapport à l'injustice qui s'incarne dans cette nouvelle peine de son œuvre.
Voilà un éclairage nouveau, Jean-Christophe Brianchon.
Je suis pas venu pour rien.
Non, vous n'êtes jamais pour rien ici.
Jamais.
J'espère bien.
Jamais. Les auditeurs ne me contrediront pas.
Non.
Mais en fait, moi peut-être, dans le fond, le problème fondamental, c'est que j'aurais aimé lire un autre livre, en fait. Enfin, dans le sens où j'ai beaucoup aimé tout ce qui a trait à la vie d'Henri Girard. J'ai trouvé ça incroyable. J'avais envie d'en connaître mille fois plus sur cet homme. Je trouve que chaque instant de description de sa vie est pourrait donner lieu à un livre en soi. Et donc, moi, c'est très personnel et du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt. mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aurais aimé lire. Je trouve que cet homme qui se met à écrire, on ne sait pas pourquoi, lui-même ne sait pas pourquoi. Enfin, d'ailleurs, il le sait, il dit je pouvais pas être manœuvre, on n'embauche pas n'importe qui, du coup, j'ai écrit. Je trouve ça très, très drôle. Enfin, c'est excessivement drôle. Et quand il répond à son fils aussi, son fils qui lui dit mais pourquoi tu payes plus ma pension alimentaire ? Et il lui répond entre la pension alimentaire et une belle voiture, j'ai pas hésité une seconde. Je trouve que tout ça, alors ça fait un personnage évidemment détestable, mais dont j'avais envie d'en savoir, enfin sur qui j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Et en fait, c'est ce livre-là que j'aurais aimé lire, pas nécessairement.
Mais il est dans
déjà beaucoup.
Il y est.
On en apprend déjà beaucoup, mais
il y est. Il faut le remonter peut-être.
Justement, qui lui donne
bien
une
sûr.
Épaisseur par cette construction un peu duale.
Tout à fait, mais tout ça n'est qu'au service, en fait, de la démonstration que fera ensuite Jane Adda.
C'est dégueulasse.
Oui, parce que en fait, toute cette première partie qui parle de sa vie se termine juste par ces quelques mots. Finalement, c'était un bon gars. Il termine là-dessus. Et ensuite, on va sur l'enquête judiciaire. Et du coup, ce n'est qu'au service de la suite. Ce n'est qu'au service de la suite pour nous dire, pour bien nous démontrer et nous mettre de son côté qu'en fait, voilà, quoi qu'il en soit, il est innocent. De toute façon, ce sera la démonstration. Et du coup, j'aurais aimé que ce soit un livre en soi.
Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est peut-être un petit peu gros, cette façon de procéder. Et en même temps, c'est très habile. Et puis, encore une fois, moi, je suis vraiment admirative de la ténacité de Jane Adda. On le voit à la bibliothèque, se plonger dans les archives, etc. Et ça rappelle la ténacité des auteurs américains de narrative non-fiction, sauf qu'il n'a pas la posture un peu du baroudeur qu'on a vu d'autres. Il y a toujours cet humour, cette distance qui, je trouve, rend la lecture vraiment très agréable. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Raphaël sur le rapport aux faits divers et cette façon de dire... Bah, bah oui, je sais que vous voulez voir le meurtre, etc. Mais il le repousse. Et pour ça, il fait référence à Jacques le Fataliste. Et à chaque fois, il compare ça au jupon de Denise qui va montrer son jupon, qui relève sa jupe. Et lui, il fonctionne pareil. On approche du moment terrible et de la scène de crime. Donc, je trouve qu'il y a une vraie intelligence, mais qui... C'est pas ramenard, c'est un terme, je crois, Raphaël, que vous utilisez dans votre article. C'est jamais ramenard, et en même temps, ça dit énormément de choses. Il y a beaucoup de strates, beaucoup de couches. C'est vraiment très riche. J'aime pas vraiment employer cet adjectif pour parler d'un livre, mais c'est très généreux. Aussi bien parce que c'est un livre qui fait justice, mais parce que c'est un livre dans lequel Genada partage tout.
Bon, ben voilà, conclusion, Raphaël Deris, c'est pas ramenard.
C'est pas ramenard et c'est, il ne mégote pas sa tendresse et il mérite la nôtre vraiment, il me semble.
Très bien. La Serpe de Philippe Jaénada est publiée chez Julliard.
Comment les blagues des gens ?
Avant de conclure cette émission, tout à fait le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, pour en connaître la réponse, et c'est Grégoire Di Fiore qui nous rappelle cette question.
Quel documentaire de Frédéric Wiseman a été interdit de projection publique aux États-Unis pendant plus de 20 ans? La réponse était Titicut Follies.
Titicut Follies qui est ressorti en France hier sur les écrans. On fait gagner ce soir d'autres places de cinéma, cette fois pour le film Nos années folles d'André Téchiné, sorti hier et dont on parle nous demain dans la dispute. La question, Grégoire?
Quel film du réalisateur français s'inspirait de l'histoire vraie d'une femme ayant prétendu avoir subi une agression?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. C'est encore mieux, hein, l'abonnement au podcast. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct. Pour commenter via Twitter et Dispute FC. Demain à 19h, émission cinéma, donc en compagnie de Charlotte Garçon, Muriel Joudé et Jean-Christophe Briançon. À notre affiche, Good Time de Ben et Joshua Safdi, Le Redoutable de Michel Hazanavicius et Nos années folles d'André Téchiné.